autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiau.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour partir à la rencontre du carbone aujourd'hui. Il serait l'ennemi public numéro 1, devenu symbole du réchauffement climatique, accusé de mener l'humanité à sa perte. Pourtant, le carbone nous fait vivre. Sans cet élément chimique, nous n'existerions pas. Il nous compose, nous, les êtres vivants qui peuplons la Terre. C'est grâce à lui que brille notre soleil et il n'a de cesse d'inspirer notre industrie et nos techniques. Sous la forme du charbon, utilisé il y a plus de 30 000 ans pour dessiner sur les parois des carvennes, jusqu'au carbone 14 qui aide à dater les fossiles, le carbone abondant, omniprésent, laisse des traces de notre monde vivant. Carbone, ses vies, ses œuvres, c'est le titre de l'ouvrage que co-signent nos deux invités, Bernadette Binceau de Vincent, professeure émérite de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Sacha Loève, maître de conférences en philosophie des sciences et des techniques à l'Université Lyon 3. Avec eux, nous allons revenir sur les multiples vies du carbone qui, vous allez l'entendre, nous invite à repenser la nôtre autour de la question « Pourquoi raconter le carbone ?» Bienvenue.
Alors allez-y, racontez-moi tout.
Il faut savoir que quand vous avez un crayon qui va de plus en plus loin vers le H, vous allez avoir une mine qui va être de plus en plus dure, mais le trait sera pas très sombre. Avantage, ceci dit, c'est que ça dépose assez peu de graphite sur la feuille.
Le Saint-Suaire de Turin, le linceul du Christ à sa descente de croix, est un faux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Comment peut-on en être sûr? Grâce à la datation au carbone 14.
À l'œil nu, rien d'autre qu'une potence de vélo. Elle est en fibre de carbone, un matériau sophistiqué qui trouve dans le sport de nombreuses applications.
Cette gigantesque carrière abrite la plus grosse mine de diamants du monde. C'est à elle que le Botswana doit sa prospérité et sa stabilité actuelle.
Bon ben, je voulais du champagne, mais finalement je vais prendre une bague, une grosse bague avec des diamants de partout. Hein?
Pour moi, le carbone en deux mots, c'est assez paradoxal puisque c'est quand même la brique de base de la vie. Qui a été fabriqué dans les étoiles. Hein. Les étoiles, c'est quand même la fabrique à éléments. Donc, certaines étoiles fabriquent du carbone. On le retrouve dans le système solaire, finalement, sur Terre. Et c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Et en même temps, c'est le principal facteur de détérioration de notre environnement aujourd'hui, parce qu'on en fait un mauvais usage, finalement. Et voilà, donc tout ce qui est taxe carbone, etc. Donc, c'est assez paradoxal. En même temps, c'est le début de la vie. Et j'espère que ce ne sera pas une accélération de la fin de l'humanité sur Terre.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être venus dans notre studio pour dessiner ensemble les multiples facettes du carbone dont on entend rarement du bien aujourd'hui, Sacha Loève.
Oui, en effet, le carbone est désigné bien souvent comme l'ennemi public numéro un, comme vous l'avez rappelé, l'ennemi à abattre, hein, littéralement, au sens de mettre à bas, de ramener sous terre. Et on se le figure souvent comme une sorte de diablotin sorti de sa boîte, avec lequel l'humanité aurait passé un pacte qui se retournerait en quelque sorte contre elle.
Un pacte avec le diable.
Oui, il faudrait en quelque sorte le faire rentrer sous terre pour respirer à nouveau.
Et pourquoi revenir alors sur la vie du carbone, ou plutôt devrais-je dire sur ses vies?
Pour justement élargir notre champ d'horizon. On traite le carbone aujourd'hui comme simplement quelque chose qu'on a sorti dans l'atmosphère et qu'il faudrait re-rentrer sous terre. Or, il n'existe pas que dans cette dimension verticale. Le carbone est partout. Et c'est ça qu'on a voulu raconter, parce qu'il est un héros de notre civilisation. Il est aussi un acteur essentiel dans les cycles de la nature. Et donc, on a voulu suivre les trajectoires et les itinéraires de ce héros et montrer qu'on a sans arrêt à négocier avec lui, à jouer avec lui et à nous adapter aussi à ses propres rythmes.
Parlons peut-être du mot en lui-même. Carbone est dérivé du latin carbo, qui signifie braise, et du radical indo-européen ker, qui veut dire brûler. Alors, parler de carbone, c'est parler de feu, Sacha Loève?
Oui, c'est parler de feu. En fait, pourquoi avoir été chercher cette racine latine dans la chimie à la fin du XVIIIe siècle, c'était une manière pour les chimistes de parler de charbon sans vraiment parler de charbon, puisque c'est au cours des expériences concernant la combustion du diamant que on s'est rendu compte avec beaucoup de réticence, parce que personne ne voulait y croire, y compris les chimistes qui faisaient ces expériences, que le diamant n'était pas essentiellement différent du charbon, et donc il fallait un mot qui n'était pas le charbon pour nommer l'élément dont était composé le diamant et donc aussi le charbon. Donc on allait rechercher cette racine latine, carbo, le brûler. Pour forger ce mot de carbone.
Et justement, dans votre livre, vous revenez sur l'histoire du diamant. Le 26 juillet 1771, on place un diamant dans un fourneau à porcelaine dans la manufacture de Sèvres, près de Paris. Le diamant vire alors au rouge éclatant et puis disparaît à la surprise générale, puisque là, on réalise que le diamant est combustible. Et c'est près de 15 ans plus tard, en fait, qu'on va donc associer, vous le dites, diamant et carbone. Et c'est l'une des toutes premières occurrences du mot carbone. En fait.
Oui, ce qui ne veut pas dire que le carbone était vraiment identifié comme un élément chimique. Il était reconnu comme ce qui est commun au charbon que tout le monde connaissait à l'époque et au diamant que seuls les riches connaissaient, il faut bien dire. Mais on avait cette. Et on n'appelait même pas ce qui se dégageait de la combustion, aussi bien du charbon que du diamant, on ne l'appelait pas CO2, on ne l'appelait pas non plus dioxyde de carbone comme nous, on l'appelait air fixé ou air fixe. Pourquoi ? Parce qu'il se dégageait des corps solides. Il était contenu dans les corps solides et hop, d'un seul coup, il se libérait.
C'est ensuite qu'on a commencé à vraiment étudier en fait, le carbone. Alors c'est difficile de parler du carbone sans parler des étoiles, Sacha Loève.
Oui, en effet, bien le carbone est né dans les étoiles, hein, quand on regarde ce récit que nous raconte la physique des particules avec la nucléosynthèse. Et donc, alors l'histoire de la naissance du carbone dans les étoiles est assez compliquée. Elle a quelque chose d'un peu miraculeux, car elle était improbable. Il était improbable qu'un nucléon, c'est-à-dire le noyau du carbone, qui a une structure très, très, très stable, 6 neutrons, 6 protons, puisse se former à partir des noyaux d'éléments plus simples, qui étaient l'hydrogène, l'hélium, le béryllium. Et en quelque sorte, la matière et l'énergie dans l'histoire de l'univers a saisi une occasion qui était improbable et qui a tout changé, puisque cette stabilité du noyau de carbone, telle que le voient les physiciens, explique une grande partie de la structure de l'univers, et en particulier le fait que les étoiles d'une certaine taille, égales ou supérieures au Soleil, la manière dont elles produisent de l'énergie en convertissant l'hélium en hydrogène, puisque cette réaction thermonucléaire est catalysée par le carbone.
Alors le carbone inspire une chimie à lui tout seul, la chimie du carbone. Il alimente encore de nombreux prix Nobel, hein, et réserve certainement à la science de nombreuses surprises. Et il inspire aussi des écrivains comme Primo Levi, célèbre écrivain italien, connu pour son œuvre « Si c'est un homme », dans laquelle il raconte son enfermement dans le camp de concentration d'Auschwitz en 1944. Primo Levi était également docteur en chimie, extrait de son livre « Le système périodique », lu par la voix de Didier Bleu.
Il se trouve que chaque élément dit quelque chose à quelqu'un, une chose différente à chacun, comme les vallées et les plages visitées pendant la jeunesse. On doit peut-être faire une exception pour le carbone, parce qu'il dit tout à tous. Ce qui signifie qu'il n'est pas spécifique, de même qu'Adam n'est point un ancêtre spécifique. Et cependant, envers le diamant, j'ai une vieille dette, contractée en des jours décisifs pour moi. C'est vers le carbone, élément de la vie, que se tournait mon premier rêve littéraire, un rêve insistant, à une heure et un lieu où ma vie ne valait pas grand-chose. Oui. Je voulais raconter l'histoire d'un atome de carbone.
Dans ce livre, Primo Levi revient sur le parcours d'un atome de carbone. Ce parcours, vous le racontez en partie dans votre livre, Bernadette Binceau de Vincent.
Oui, on raconte, effectivement, c'est un livre qui raconte des histoires, mais plutôt que de raconter le parcours d'un atome depuis la naissance de l'univers jusqu'à aujourd'hui, où il est devenu le méchant qu'on voudrait bien, dont on voudrait se débarrasser, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer ses multiples facettes et ses multiples modes de vie et modes d'existence. Et c'est pour ça qu'on ne se contente pas de raconter l'atome, c'est-à-dire l'identité chimique du carbone, qui est déjà extraordinaire en elle-même, puisque l'atome de carbone est capable de se lier avec pratiquement tous les éléments du tableau périodique, et y compris avec lui-même. Ce qui est vraiment une prouesse.
Vous l'écrivez, c'est un être de relation.
C'est un être de relation, et c'est cette capacité de liaison et de relation avec toutes les et de former des composés stables qui fait que il a fallu créer une chimie pour lui tout seul. C'est le seul élément du tableau périodique qui a eu droit à une chimie à lui tout seul, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chimie organique.
Et alors le carbone est, on dit, polymorphe, il prend différentes formes, Sacha Loève.
Oui, de par cette capacité qu'il a à se lier, donc non seulement avec d'autres éléments, mais avec lui-même, et cela lui permet de former une grande diversité d'allotropes, hein, ce qu'on appelle des allotropes, donc du grec allo, autre, et tropos, manière ou mode. Donc c'est ce concept chimique d'allotropie qui nous a suggéré un petit peu que nous allions nous intéresser à la multiplicité des manières d'être du carbone, mais au-delà même de la chimie, mais simplement en chimie, ce pouvoir est déjà proprement stupéfiant, puisque quand on a commencé à identifier donc l'élément carbone, le concept d'allotropie a servi de levier pour distinguer les corps simples faits de carbone, comme le charbon et le diamant, de l'élément carbone. Et c'est une distinction qui était vraiment principielle pour classer les éléments, pour mettre de l'ordre dans la jungle des substances chimiques. Et simplement, ces deux allotropes en cachent en fait une infinité d'autres, et qui ont ouvert ce qu'on appelle depuis plus de 15 ans, enfin depuis quelques décennies maintenant, le nanomonde. On a cette ménagerie d'allotropes bizarroïdes du carbone. Pas de l'infiniment petit, ça c'est plutôt petit. La physique des particules, mais du très petit, enfin de cette échelle intermédiaire entre la physique des particules, la physique quantique et la physique classique, où la matière prend forme, consistance, stabilité. Et dans ce monde, le carbone est roi. Et fait un peu comme une boîte de Pandore, il fait surgir comme ça sans cesse de nouveaux matériaux. Donc à cette échelle-là, il est vraiment, il affirme sa polymorphie, et il fait rêver les industriels, les promoteurs de nouvelles technologies, et suscite plein de promesses aussi. Et il inscrit aussi des fantasmes, il faut le dire.
Et le CV du carbone, vous l'écrivez, est impressionnant. C'est le quatrième élément le plus abondant dans l'univers, après l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène. Et il est, Bernadette Binceau de Vincent, présent dans le monde animal, dans le monde végétal et puis dans le monde minéral. Bref, il est présent partout.
Absolument, oui. Et il circule partout. Et on ne peut pas l'attraper. Enfin, je veux dire, on le capture quelquefois, mais on ne peut pas vraiment l'attraper. Ce qui est sûr, c'est que, comme il forme des liaisons très stables, y compris avec lui-même, il réserve sans arrêt des surprises. Et on peut dire, Sacha évoquait tout à l'heure le nanomonde, il est effectivement l'élément qui a réservé le plus de surprises. Il est capable de former ces sphères de 60 atomes de carbone qu'on appelle les fullerènes, et de former des nanotubes, ou bien de former des monocouches avec des propriétés extraordinaires.
On reviendra là-dessus.
Comment cet élément, qui est le plus vieux d'une certaine manière le mieux connu depuis les origines de l'humanité.
Et de notre système solaire.
Et de notre système solaire, peut-il encore nous émerveiller et nous réserver tant de surprises ?
Éléments chimiques, matériaux, gaz, traces de crayon ou monnaie d'échange, le carbone n'a pas fini, vous le dites, de nous surprendre autour de la question « Pourquoi raconter le carbone ?» Mais d'abord, Régine nous chante sa vision du carbone, ou plutôt des diamants. Si t'attends que les diamants sautent au cou, c'est maintenant sur la radio du monde.
Les sanglots, ça ne vaut pas un clou. À la vitrine des bijouteries, tes jolies larmes, c'est bien gentil. Mais ces rivières-là n'ont pas de prix. Rien ne vaut un homme autour du cou. Du moins, pour se passer ses envies, regarde derrière toi, ma chérie. Ce sont tes vainqueurs qui s'enfuient. Si tu n'as que ça à mettre au clou, dépêche-toi tant que t'es encore.
De la question « Pourquoi raconter le carbone ?» Le carbone présent à la fois dans la suie et dans le diamant. Quel autre élément que lui peut aussi bien mêler en son sein deux extrêmes ? Nous nous attardons aujourd'hui sur le carbone et sur ses multiples formes avec nos deux invités du jour, Sacha Loève, maître de conférences en philosophie des sciences et des techniques, et Bernadette Binceau de Vincent, professeur émérite de philosophie. Tous deux publient « Carbone, ses vies, ses œuvres » aux éditions du Seuil, biographie ou plutôt monographie du carbone. Il propose une autre histoire de cet élément chimique, une histoire différente de celle que l'on propose actuellement. Le carbone ne serait pas le démon que l'on dépeint, qui sera extrait du sous-sol par l'humanité et qui aujourd'hui se retournerait contre elle. Le carbone est donc le héros de votre livre, c'est aussi celui de notre culture, et ce depuis les hommes préhistoriques, Sacha Loève.
Oui, c'est quelque chose que l'on peut affirmer dans la mesure où le carbone est ce qui, dans nos pratiques quotidiennes de vie, d'humain, à commencer par faire du feu, s'éclairer, se raconter des récits autour du feu, nous permet de laisser des... Déjà, il laisse des traces. Et il nous permet en quelque sorte de nous projeter, nous reconnaître, de nous symboliser, de nous raconter dans ces traces. Alors ça peut être des traces de type artistique, hein. Il fournit des matériaux, des outils d'écriture.
Du graphite. Donc,
voilà, le graphite, hein, c'est
pour écrire.
Un de ses premiers usages. Voilà, donc les inscriptions sur les parois des cavernes. qui devait être d'ailleurs regardé avec contemplé avec un feu qui est animé en quelque sorte ces formes là. On pense aussi au fusain bien sûr et au crayon à papier hein, qui a une histoire très intéressante qui est liée un peu au, voilà au gribouilleur à celui qui efface et à l'ingénieur en fait très tôt les premiers l'outil clé des premiers ingénieurs c'est le crayon à papier
donc à base de carbone
voilà bien. Voilà donc il y a des usages du carbone comme outil d'inscription aussi bien du côté des arts que aussi du côté un peu de la comptabilité, des bilans. Et on peut très bien mettre en relation, et c'est ce que nous faisons dans le livre, la manière dont le carbone aussi nous permet de comptabiliser les traces, l'empreinte hein, que nous avons, que nous faisons peser sur la biosphère.
Oui. On a aussi le noir de carbone qui est issu des fumées, la suie, qui est le pigment traditionnel des encres noires, comme l'encre de Chine par exemple. Encore une fois, hein, ça nous permet de laisser des traces, Bernadette Pinson.
Oui, si on dit que l'humanité est née avec le feu hein, et que l'histoire est née avec l'écriture, eh bien, on peut dire que c'est l'histoire du carbone. C'est pas qu'on veut tout ramener, mais je pense qu'il est important, à travers le carbone, de souligner l'importance de notre interdépendance avec la matérialité et de montrer que on est intégralement, notre culture et notre civilisation dépend des propriétés, des matériaux. Et c'est un peu l'inspiration qu'il y avait dans ce livre.
Et le diamant, on y revient, hein, permet lui aussi de graver. Vous l'écrivez dans le livre, le diamant dévoile un carbone écrivain.
Les diamants, évidemment, puisque quand on fait tourner un disque vinyle, comme on le faisait il y a quelques années, ce qui grave et ce qui permet d'écouter, c'est une pointe de diamant. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que aujourd'hui, quand on met un envoi, un email, et qu'on met quelqu'un en copie, on continue à mettre CC, qui veut dire carbon copy, alors qu'il n'y a plus du tout de carbone là-dedans. Mais on voit comment l'empreinte du carbone s'est inscrite dans l'électronique et dans la civilisation du numérique.
Alors l'autre enregistrement du passé que permet le carbone, ce sont les carbones fossiles. Et on pense bien sûr au pétrole.
Alors les carbones fossiles, c'est encore une inscription du carbone dans la croûte terrestre. Et ce sont des restes de plantes ou de planctons qui sont là depuis des centaines de milliers d'années et qui sont nos réserves de charbon ou de pétrole qu'on a exploité sans merci depuis plus de deux siècles, depuis la révolution industrielle. Et c'est ça qui est l'origine de l'effet de serre, des gaz à effet de serre, d'une partie des gaz à effet de serre, et qui est la source de tous les problèmes aujourd'hui du réchauffement climatique. Donc cette histoire, qui est notre histoire, du moins l'histoire des pays industrialisés, c'est l'histoire précisément d'avoir extrait du carbone, qui est une sorte de soleil enfoui sous la terre, hein, et qui contient une énergie fabuleuse, surtout le pétrole. Mais on l'a sorti pour transformer cette réserve qui est de la vie passée, hein, de la vie en quelque sorte congelée sous terre, on l'a sorti pour la faire partir en fumée. Et c'est ça le problème.
En tout cas, c'est difficile de parler du carbone sans parler effectivement du pétrole. Alors, le carbone permet donc de conserver des traces, il permet aussi de les dater. Vous évoquez bien sûr le carbone 14, véritable outil de datation, Sacha Loève.
Oui, 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 ça fait partie de ces identités temporelles du carbone. Le carbone nous parle du temps et une des manières qu'il a de nous parler du temps ou d'inscrire le temps, de compter le temps, c'est la chronodatation au carbone 14 qui a aussi ceci d'intéressant que elle fut l'occasion d'une convergence entre les sciences humaines et les sciences physiques, ce qui confirme un peu ce propos que nous tenons, qui est que le carbone nous permet de parler de notre nos alliances avec la matérialité physique.
Et le carbone 14, donc c'est un isotope radioactif du carbone. Il a été isolé en 1940 à Berkeley, aux États-Unis. Et progressivement, on a réalisé en fait son pouvoir pour dater. Il permet de dater des fossiles jusqu'à plus de 50 000 ans en arrière.
Oui, et je dois dire que ça a été très important, cette découverte, parce que c'est un moment, ça a été surtout après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et le Lawrence Berkeley Laboratory était essentiellement voué aux travaux sur les bombes atomiques. Et là, c'était une application pacifique des recherches sur l'atome et sur le nucléaire. Et donc, ça a été une sorte de manière d'innocenter un peu le nucléaire. Et en plus, comme on vient de le dire, ça a fortement intéressé les archéologues et les paléontologues qui disposaient enfin d'un moyen de datation absolu et non plus simplement relatif par rapport aux fossiles et à la couche dans laquelle ils se trouvent. Là, on avait un moyen de compter vraiment la date. Alors, c'est vrai que c'est essentiellement limité aux restes organiques qui sont à base de carbone. Mais ça a été le début d'une utilisation de la chronodatation avec d'autres atomes. Donc, une fois de plus, le carbone a fait école.
Il a ouvert un nouveau champ.
Voilà.
Le carbone permet de conserver les traces que nous laissons sur notre planète et puis de les comprendre autour de la question « Pourquoi raconter le carbone ?»
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Le carbone nous compose par sa masse. Il est le deuxième élément présent dans le corps humain, derrière l'oxygène. Il est aussi à l'origine de nombreuses techniques, on en parlait, qui ont permis à notre industrie d'avancer. Et ce, même avant la révolution industrielle, Sacha Loève.
Tout à fait. On pense à des bonnes vieilles techniques. Le carbone a ceci de particulier qu'il conjugue à la fois le low-tech et le high-tech. Alors, il y a les techniques de chauffage, les techniques d'écriture, il y a aussi tout ce qui est revêtement, tout ce qui est décontamination. On pense à une très vieille technique qui est le charbon actif, en fait, cette capacité qu'a le charbon, sous certaines formes, dans certaines conditions, de piéger des composés chimiques dont on veut atténuer l'effet. Donc il a été utilisé en fait très tôt à des fins prophylactiques, médicales, etc., etc.
Et puis il a bien sûr inspiré de nombreuses innovations pendant la révolution industrielle du 19e siècle.
Oui, alors je pense que ça c'était essentiellement le charbon, mais on utilisait le charbon avant la révolution industrielle. Et on l'utilisait par exemple pour engraisser les sols. On mettait un peu de... Et c'est un problème aujourd'hui d'ailleurs, de ramener du carbone dans les sols qui sont épuisés pour l'agriculture. Et ça c'est très important, de fixer du carbone dans les sols. Or c'est ce qui se faisait déjà au XVIIIe siècle.
Ça permet de cultiver.
Oui, on mettait du charbon de bois, puisque ce n'était pas du charbon de mine à l'époque, mais surtout du charbon de bois, et on le mettait dans les sols pour engraisser un petit peu les sols pour l'agriculture. Et on avait des techniques, d'ailleurs, pour fabriquer du charbon de bois de manière très, très... on voit ça dans l'encyclopédie de Diderot, de manière très, très standardisée.
Et aujourd'hui encore, le carbone est en train d'inspirer de nombreuses innovations. On parlait de nanomonde tout à l'heure, on parlait notamment de graphène. Alors, qu'est-ce que c'est
le graphène? Le graphène, c'est la grande, le wonderful material, c'est le matériau miracle, qui est censé absolument avoir toutes les propriétés les plus demandées aujourd'hui, à savoir d'être léger, d'être très résistant, de permettre de véhiculer d'autres composés, d'être conducteur, etc. Et donc c'est en réalité une couche monoatomique de graphite. Et c'est un des derniers prix Nobel du carbone, hein, 2004, c'est ça.
Donc c'est très récent.
Oui, Et donc, le graphène, il y a des investissements, notamment il y a un Graphene Flagship lancé par la Commission européenne qui est court sur 10 ans pour essayer d'extraire le plus d'applications possibles, industrielles et médicales, de cet matériau qui n'en est pas un, puisque c'est juste une monocouche. C'est-à-dire c'est extrêmement mince, ça peut à peine exister.
C'est une pure surface.
Une pure surface.
Et une promesse donc pour les puces électroniques notamment, et donc l'informatique.
À ceci près que...
Ce n'est pas semi-conducteur.
Voilà, c'est un matériau sans gap.
C'est-à-dire
sans trou.
Ah oui, c'est un anglicisme.
C'est-à-dire que dans ces bandes de conduction, il n'a pas cette zone sur laquelle on joue pour faire switcher un matériau on-off en quelque sorte, pour le faire passer d'isolant à conducteur. Et donc les applications en électronique qui sont envisagées, c'est plutôt des applications où on joue sur les fréquences, sur les applications haute fréquence. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le graphène, en fait, par-delà toutes ces promesses de technologies futures, hein, qui concernent à peu près tous les domaines et qui sont sans doute extrêmement exagérées et qui donnent lieu à beaucoup de spéculations, à une sorte de bulle spéculative de promesses, il est aussi intéressant, il fait retour en quelque sorte dans le laboratoire pour des applications, si on veut, de recherche très fondamentale, que ce soit en physique ou en chimie. En physique, il sert de petit dispositif expérimental de poche en quelque sorte pour faire de la théorie quantique des champs, donc pour faire des expériences qu'on fait normalement avec des grands instruments, des accélérateurs, etc. On peut les faire avec un petit échantillon. Et en chimie, il a mis en avant, il a permis de mettre à l'étude toute une classe de matériaux qui sont donc des matériaux bidimensionnels, des surfaces monocouches, et il a fait école aussi. Et en quelque sorte, il s'efface aussi en tant que carbone pour laisser la place à d'autres. Et il est aussi intéressant pour ça, et ça fait partie de l'ADN du carbone, si je puis dire. C'est son côté altruiste.
Alimente sa recherche.
Voilà.
Au fur et à mesure. Alors, présent dès l'origine de notre système solaire, le carbone n'a pas encore tout révélé de lui. Le carbone se la raconte aujourd'hui dans Autour de la question. Il est devenu, on va en parler, un témoin du réchauffement climatique et peut-être même l'un des remèdes. On en parle dans un instant, mais d'abord, carbone, ça se dit pareil, ou presque en anglais, c'est signé Sun Little et c'est tout de suite sur RFI.
Chemistry won't let me wait. Hit you with this invertebrate. Since the day you're born, we might be richer, but if your soul is poor, get every wish and still you want more.
Carbon, each one has its way. Only. Oh my God. Carbon, each
autour de la question « Pourquoi raconter le carbone ?» On parle de marché carbone, de décarboner l'économie, de sobriété en carbone, de bas carbone. Bref, le carbone a investi le champ lexical du climat et du réchauffement climatique. Alors d'ailleurs que s'ouvre aujourd'hui en Pologne la COP24, la conférence des Nations Unies sur le climat. Le plus gros stock de carbone terrestre se situe dans le cercle arctique. On parle du pergélisol. Le chercheur au CNRS, Florent Dominé, mène des recherches sur le sujet. Il est basé au Québec pour étudier les écosystèmes et les géosystèmes arctiques. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Raphaël Constant.
Donc le pergélisol, c'est le sol qui est gelé en permanence à cause des températures de l'air qui sont froides. Et le sol donc reste gelé, sauf en surface, il y a ce qu'on appelle la couche active qui va dégeler l'été sur environ 50 cm à 1 mètre. Donc dans toute la région circumpolaire arctique, on trouve du pergélisol. Donc en gros, en première approximation, dès que la température de l'air moyenne annuelle descend en dessous de moins 2, moins 3 degrés, on va trouver du pergélisol. Donc le pergélisol va couvrir environ une quinzaine de millions de kilomètres carrés, donc ça fait presque 30 fois la surface de la France, c'est énorme, et la moitié du Canada, la moitié de la Russie, c'est-à-dire 7 millions de kilomètres carrés, et ensuite la moitié de l'Alaska aussi, et en plus un petit peu d'une partie de la Scandinavie.
Alors en quoi on peut relier le pergélisol et le carbone justement ?
D'abord, il faut définir le carbone. En fait, le terme carbone, ce n'est pas le terme optimal. On devrait plutôt parler de matière organique, de composés organiques. Par exemple, tous les végétaux, les arbres, les herbes et tout ça sont de la matière organique qui contiennent du carbone. Les animaux aussi, nous autres êtres humains, on est constitués en grande partie de carbone. Donc en fait, il faut parler de carbone organique, de matière organique, c'est-à-dire de carbone vivant. Par opposition au carbone minéral, qui est le carbone mort, comme par exemple le calcaire, c'est du carbone, mais c'est du carbone mort. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sous nos latitudes, les végétaux poussent en été, une partie des végétaux meurt à l'automne ou en hiver et vont se décomposer sur le sol pour redonner un peu des nutriments et être recyclés l'année suivante par les végétaux qui vont pousser l'année suivante. Dans l'Arctique, c'est pas ça qui se passe. Dans l'Arctique, les végétaux vont mourir et une grande partie de ce carbone ne va pas se décomposer pendant l'hiver et pendant le printemps. À la place, il va être pris dans le pergélisol, c'est-à-dire qu'il va être congelé et puis stocké là pendant des dizaines de milliers d'années. Et du coup, ça va former un réservoir de carbone qui va piéger un peu du carbone. Et ce carbone, par exemple, ne va pas pouvoir se retrouver dans l'atmosphère. Alors, avec le réchauffement climatique, ce qui se passe, c'est que le pergélisol dégèle. Et l'activité microbienne va pouvoir se remettre dans ce pergélisol. Et les microbes, ils sont comme nous. Ils mangent de la matière organique. Nous, c'est ce qu'on fait. On mange de la matière organique et on la respire. On la respire, c'est-à-dire qu'on la transforme en CO2 et en eau. Donc en fait, toute cette matière organique qui est stockée là depuis 10 000 ans ou 20 000 ans, etc., va se retrouver respirée par les microbes et réémise vers l'atmosphère sous forme de CO2. Donc on a tout ce carbone qui a été piégé par 10 000 ans qui, tout d'un coup, va augmenter le stock de CO2 atmosphérique. Le pergélisol, c'est le plus gros stock de matière organique terrestre. Il y a plus de matière organique, donc de carbone, dans le pergélisol que dans toutes les réserves de combustibles fossiles combinées. Si tout le carbone du pergélisol se retrouvait dans l'atmosphère, la concentration de CO2 serait multipliée par 3. En fait, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur notre tête. Dans le passé, bon, il y a 30 millions d'années, il y a eu des épisodes qu'on appelle hyperthermiques, où il y a eu un réchauffement climatique vraiment très important, de 5 à 6 degrés, et qui sont liés justement à des événements de dégel de pergélisol avec émission forte de carbone dans l'atmosphère. Ceci dit, à cette époque-là, ça s'est passé beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que ça s'est passé sur des dizaines, des centaines de millions d'années. Le problème à l'heure actuelle, c'est que ce dégel de pergélisol est très rapide. La Terre pourrait très bien vivre avec 10 degrés de plus, mais ça nécessite un temps d'adaptation de, mettons, 100 000 ans. Là, on est sur des changements qui ne vont pas prendre 100 000 ans, on est sur des changements qui vont prendre 100 ans. On n'a pas le temps de s'adapter, c'est ça la catastrophique. Le défi, c'est pas tant d'empêcher le réchauffement climatique que de le ralentir le plus possible.
Le pergélisol, stock de carbone terrestre dans le cercle arctique, serait donc une bombe à retardement, si l'on en croit le chercheur Florent Dominé que l'on vient d'entendre. Bernadette Binceau-de-Vincent, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, ça veut dire que ce qui est problématique, ce n'est pas le carbone lui-même, mais c'est la vitesse de dégagement du carbone dans l'atmosphère. Et c'est parce qu'on a rompu les cycles géologique du carbone, qui a plusieurs cycles d'ailleurs du carbone, celui de la matière organique, le cycle des plantes qui le stockent, puis qui le libère en automne, comme on vient de l'expliquer, et qui le recycle, etc. Mais il y a d'autres cycles du carbone, qui sont des cycles géologiques, où il est stocké dans le sol ou dans la roche, et qui sont encore plus longs. Mais tout cela se fait à l'échelle de centaines de milliers d'années. Et là, en moins de 200 ans, et même plus rapide aujourd'hui, on déstocke du carbone de manière brutale. Et nous vivants, les plantes, les autres animaux, nous ne sommes pas adaptés pour faire face à cela. Et c'est là qu'est le gros danger. C'est un problème de cinétique dans les cycles du carbone. C'est un problème de vitesse et non pas un problème de la quantité de carbone. C'est vraiment un problème d'adaptation au rythme du carbone.
En tout cas, à cette vitesse, le carbone contribue au réchauffement climatique actuellement.
Le carbone contribue, il n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais en tout cas, il est l'étalon des gaz à effet de serre, et il est en tout cas un des problèmes.
Alors justement, le carbone sert aujourd'hui d'étalon pour mesurer le réchauffement climatique qui a commencé. On parle d'équivalent carbone. Sacha Loève, de quoi on parle en fait quand on parle d'équivalent carbone? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors quand on parle, souvent on omet de parler d'équivalent carbone, on parle simplement de décarboné, de bas carbone, faisant comme si on parlait du carbone en soi.
Comme si c'était le seul ennemi, encore une fois, on
oui. Or, il faut parler d'équivalent carbone, c'est-à-dire de combien tel ou tel gaz, de combien de fois il contribue à l'effet de serre relativement à une unité qui est donnée par le carbone. Par exemple, quand on dit le PRG, potentiel de réchauffement climatique du méthane, c'est 28, ça veut dire que, alors sur une période de référence, les temporalités sont toujours à prendre en compte, en l'occurrence c'est 100 ans. Quand on dit cela, on dit que le méthane contribue 28 fois plus que le dioxyde de carbone au réchauffement climatique sur la même période de référence. Et tout ça varie en fonction, évidemment, des périodes choisies. Donc c'est vraiment l'étalon général, c'est une devise, le carbone, qui permet de comparer
qui fournit une commune mesure,
voilà, en fait, entre des différents gaz, différentes substances chimiques aériformes, mais aussi entre nos actions, c'est-à-dire qu'on peut convertir le coût carbone d'un billet de train, d'un voyage en train, en avion, d'un email. On peut convertir tout ça en équivalent carbone dans une comptabilité qui, il faut bien le dire, est un peu démesurée, est un peu folle, mais qui nous permet, qui est une manière de mesurer, d'inscrire notre trace, de matérialiser. Je suis réticent peut-être avec matérialiser parce qu'il y a un côté très abstrait aussi, comme dans la finance.
Mais ça nous permet de comprendre aussi ce qui pollue le plus. Parmi, vous parliez des activités humaines.
Ouais.
C'est un étalon, effectivement, une mesure.
Oui, mais il masque tout autant qu'il montre, parce que cette mesure est construite et il faut à chaque fois faire bien attention de regarder quelle est la période de référence choisie, quel est le scénario de base sur lequel a été établi le bilan, c'est-à-dire on calcule ce que va changer tel projet de réduction ou telle alternative technique, telle substitution, mais quel est le scénario de base, qui est toujours un scénario hypothétique. Donc, ça permet d'objectiver, mais il y a toujours des choix qui sous-tendent cette objectivation par le carbone.
Alors, le carbone comme monnaie d'échange, on parle aussi de marché carbone sur lequel on peut s'échanger,
oui,
en fait,
donc,
nos émissions carbone.
Oui, et ces choix sont souvent des choix très, très, très capitalistes, pour le dire vite.
C'est-à-dire, comment ça se passe, en fait ?
Alors, il y a donc des marchés dont les plus vastes sont des marchés institutionnels. Le plus vaste est celui de l'Europe. Le régulateur fixe un plafond d'émissions. Et ensuite, il n'interdit pas aux industriels d'émettre, simplement il permet à ceux qui ont été vertueux d'acquérir des titres carbone, des crédits carbone qu'ils vont échanger avec ceux qui ont déplacé, voilà, qui ont déplacé leur plafond et qui doivent donc, qui faute d'avoir pu investir, faute d'avoir choisi d'investir dans des procédés plus bas carbone, ou pas que le carbone d'ailleurs, qui émettent moins de gaz à effet de serre, même autre que le carbone, vont devoir payer en fait dans un système en fait qui rappelle un petit peu celui des indulgences jadis mise en place par l'Église catholique. C'est-à-dire quand vous aviez péché et vous pouviez simplement vous racheter une place au paradis en payant le prêtre.
Et on touche là en fait aux dérives aussi d'utilisation du carbone comme étalon.
Oui, parce que c'est aussi un outil d'abstraction. Voilà. Il conjugue l'abstrait et le concret, et dans le cadre de ce capitalisme vert qu'on nous vend actuellement, il génère beaucoup d'abstraction.
Alors vous l'écrivez dans le livre Bernadette Binceau de Vincent, le comprendre le carbone, c'est transgresser les frontières entre nature et culture.
Exactement, et je pense que c'est le message essentiel de ce livre, c'est qu'on ne peut plus fonctionner avec d'un côté les sciences de la nature et de l'autre côté les sciences dites humaines. Le carbone est précisément ce qui nous oblige sans arrêt à comprendre combien on est en dette à l'égard du carbone, mais aussi des autres éléments matériels, et ce qu'on leur doit, et en même temps combien on doit les ménager, combien on doit interagir avec eux et essayer de négocier avec eux pour que cette fichue planète, elle continue à avoir des conditions qui permettent la vie et qui permettent aux humains d'y prospérer dessus. Et c'est là vraiment, c'est l'idée de base, c'est qu'il faut en finir avec ce partage entre d'un côté la nature et de l'autre côté la culture.
Et c'est pour ça que c'est important aussi à vos yeux de dédiaboliser le carbone, justement.
Voilà, et de nous rendre compte que la matière est beaucoup plus riche qu'on ne le croit en général, en particulier quand on parle de dématérialisation de l'économie ou de décarbonation de l'économie. Le carbone nous a servi un peu de modèle pour évaluer combien nous sommes des êtres matériels et des êtres qui, en tant que matériels, vivent dans la nature au même titre que tous les autres.
Et l'histoire du carbone, c'est en fait notre histoire, à nous.
Humain. C'est notre histoire des humains, et pas seulement des humains, des bactéries, de tous les animaux et de toutes les plantes aussi.
Et cette histoire, vous l'écrivez aussi, pourrait nous aider à repenser notre rapport au temps, l'histoire du carbone, qui s'inscrit dans une longue continuité.
Dans notre rapport au temps, essayer effectivement de passer de du court terme sur lequel sont fondées les politiques aujourd'hui, et c'est un des gros problèmes aujourd'hui pour faire face au climat qu'on évoquait tout à l'heure, la COP24, c'est-à-dire de penser sur le long terme. Et le carbone nous aide à penser sur le long terme et en même temps à penser que sur le long terme, il y a beaucoup de cycles différents et qu'on ne peut pas impunément toucher à ces cycles.
Et le carbone peut nous aider à repenser notre rapport au monde. Merci, merci Bernadette Binceau de Vincent, merci Sacha Loève d'être venue dans notre studio nous aider à changer de regard sur le carbone. Je rappelle le titre de votre livre, Carbone, ses vies, ses œuvres, publié aux éditions du Seuil. Merci à toute l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de RFI et puis sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, autour de la question, comment la science infuse et se diffuse dans les laboratoires et jusque dans les rédactions. C'est notre rendez-vous mensuel avec la presse scientifique pour un petit tour de l'actualité des sciences. Rendez-vous demain.